Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, à tous et aux autres. Vous savez, les autres, ceux qui sont là et qui nous regardent, ceux qui nous épient, ceux qui, même quand ils ont la tête tournée, nous mettent mal à l'aise, ceux dont le tort est d'être là. Les autres, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde à qui, dit Sartre, nous livrons notre corps, d'où le malaise. Allez en route sur les chemins de la philosophie, bienvenue dans l'univers de Jean-Paul Sartre, où les corps se livrent les uns aux autres et où les autres, quand ils ne sont pas l'enfer, sont tout simplement bizarres.
Nous livrons notre corps à tout le monde. Je ne veux pas dire du point de vue sexuel, mais nous le livrons par le regard, par les contacts. Nous le livrons à tout le monde. Vous me livrez votre corps, je vous livre le mien.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Bonjour Vincent de Corbitaire.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, directeur adjoint de la revue Études sartriennes. Vous avez publié Sartre avant la phénoménologie, Sartre face à la phénoménologie, deux ouvrages publiés chez Ousia, plus de 1000 pages sur le sujet. C'est dire votre connaissance sur ce thème. L'être et le néant nous accompagnent depuis lundi. Nous avons parlé de la mauvaise foi lundi avec l'exemple de la coquette et du garçon de café. Mardi, nous avons évoqué le problème de la liberté. Pourquoi un problème? Parce que pour Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Hier, nous évoquions le chapitre sur la psychanalyse existentielle, chapitre moins connu. Et aujourd'hui, dernier temps donc, il fallait aborder cet aspect essentiel à cet ouvrage puisqu'il constitue la troisième partie de l'être et le néant. Autrui, ou plutôt le pour autrui, et le moins qu'on puisse dire, c'est le titre du premier chapitre consacré à ce thème, c'est qu'autrui pour Sartre est un problème.
C'est effectivement ainsi qu'il démarre cette partie de l'être le néant. On peut dire qu'il y a au moins deux grandes questions. D'abord, qu'est-ce qui me permet d'établir qu'autrui est bien un autre, c'est-à-dire un autre sujet, un autre être humain? La question remonte au moins à Descartes. Si je vois passer devant ma fenêtre un homme vêtu d'un chapeau et d'un manteau, qu'est-ce qui m'assure que ce n'est pas un pantin articulé? Qu'est-ce qui fait la subjectivité ou l'altérité de cet autre qui, en même temps, doit être un autre humain comme moi? Quelque chose qui se distingue d'un simple objet. Et puis, il y a l'autre question fondamentale. Est-ce que les autres sont des structures nécessaires de ce que Sartre appelle techniquement le pour-soi, la réalité humaine fondamentale? Est-ce que nous sommes forcément accompagnés d'autres de par notre définition en tant qu'être humain? Ou est-ce que l'autre peut être éventuellement un événement contingent, purement accidentel? On imagine bien tout de suite des implications, sinon politiques, au moins éthiques. Ça n'est pas la même chose de dire l'humain, comme le dit Heidegger, est forcément un être pour l'autre, un mitsein, un être avec, ou de dire que l'autre est un accident, éventuellement gênant, éventuellement un adversaire, voire quelqu'un qui n'a pas à être pris en considération de manière centrale.
Qu'en est-il pour Sartre alors?
Pour Sartre, la thèse est très nette. Autrui n'est pas, dit-il, une structure ontologique. Il ne fait pas partie de l'être même du pour-soi, de ce qu'il appelle, disons plutôt, la conscience.
Donc je suis constitué indépendamment d'autrui.
Je peux être comme conscience, comme corps conscient, défini et fonctionner, si on peut dire, dans le monde, sans qu'il y ait des autres. Par contre, dit Sartre, comme homme, il y a inévitablement des autres qui sont dans notre entour. En fait, autrui, curieusement, on ne l'observe pas assez, est ce qui, pour Sartre, humanise l'homme. C'est une dimension qui fait la différence entre l'homme et ce que serait un simple animal conscient qui aurait les mêmes autres caractéristiques que celles que vous avez vues, mais qui pourrait en droit être parfaitement solitaire.
Par exemple, on trouve dans ces chapitres sur autrui, pour l'autre, je suis assis comme cet encrier est sur la table. C'est-à-dire qu'il distingue à la fois ce qui différencie un être humain d'un encrier, mais en même temps, il dit bien que pour autrui, finalement, mon mode d'être au monde n'est pas vraiment distinct de celui d'un simple objet.
Alors ça, c'est un élément déjà de la thèse, relativement tardif. Si on prend le texte de Sartre dans l'ordre, après la discussion très technique avec un certain nombre de devanciers, oui, il commence par poser la question à travers ce qu'il dit lui-même être une expérience banale de la vie quotidienne. Il ne faut pas faire de l'autre un mystère ou l'occasion d'une sorte de révélation spécifique. C'est en phénoménologie, dans la vie la plus courante, qu'on doit pouvoir trouver l'expérience fondamentale de l'apparition d'autrui, et c'est un autre qui apparaît dans un jardin public. Je suis dans un jardin public, je contemple les alentours, tout s'organise autour de moi. Que se passe-t-il, demande Sartre, quand quelqu'un d'autre, alors que jusque-là j'étais seul, entre dans le même jardin public?
Voici le texte. Je suis dans un jardin public. Non loin de moi, voici une pelouse, et le long de cette pelouse, des chaises. Un homme passe près des chaises. Je vois cet homme, je le saisis comme objet à la fois et comme un homme. Qu'est-ce que cela signifie? Que veux-je dire que lorsque j'affirme de cet objet qu'il est un homme? Si je devais penser qu'il n'est rien d'autre qu'une poupée, je lui appliquerai les catégories qui me servent habituellement à grouper les choses spatio-temporelles, c'est-à-dire que je le saisirai comme étant à côté des chaises, à 2,20 m de la pelouse, comme exerçant une certaine pression sur le sol, etc. Son rapport avec les autres objets serait du type purement additif. Le percevoir comme homme, au contraire, c'est saisir une relation non additive de la chaise à lui. C'est enregistrer une relation sans distance des choses de mon univers autour de cet objet privilégié. Ainsi, l'apparition parmi les objets de mon univers d'un élément de désintégration de cet univers, c'est ce que j'appelle l'apparition d'un homme dans mon univers. Tout à coup, un objet est apparu qui m'a volé le monde. Tout est en place, tout existe toujours pour moi, mais tout est parcouru par une fuite invisible et figée vers un objet nouveau. L'apparition d'autrui dans le monde correspond à un glissement figé de tout l'univers, à une décentration du monde qui mine par-dessous la centralisation que j'opère dans le même temps. C'est une expérience qu'on a tous pu faire un jour ou l'autre, hein, Vincent de Corbitelle.
Tout à fait, sans se l'expliciter dans ces termes-là.
C'est-à-dire qu'autrui est venu nous voler notre monde,
c'est
notre
moment. C'est la thèse de Sartre qui n'a évidemment pas acceptée unanimement. L'idée qu'il y a au départ une double dimension. Je suis le centre organisateur de ces entours qui sont ceux de ce jardin dans lequel je me trouve. Et les différents éléments de ce contexte, j'entretiens avec eux, ou je les fais entretenir entre eux, des relations objectives. La pelouse est à 10 pas, tel banc est à 20 mètres, etc. Quand l'autre apparaît, et que c'est un autre humain, je ne peux pas procéder de la même manière sans violence. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a un autre centre organisateur, un autre regard à partir duquel le monde va se déployer. Et le simple regard que l'autrui jette sur ces mêmes alentours, qui sont les miens aussi, fait que cette pelouse et cette chaise qui jusque-là s'organisaient sans distance en fonction de moi, c'était moi qui les voyais à tel et tel endroit, s'organisent cette fois-ci en fonction de lui. C'est par rapport à lui que la chaise est tout près, que la pelouse éventuellement est plus loin. Et donc ce qui se passe, c'est pour Sartre un décentrement, un acte assez violent par lequel je perds le monopole de ma saisie de ce monde. Et tout à coup, ce monde est organisé à partir d'un autre centre, et donc à partir d'un regard qui m'échappe. Je ne sais pas comment l'autre voit, de son point de vue, le même jardin public. Mais je sais qu'il le voit, et que ce qu'il voit, c'est radicalement différent que ce que je vois. Alors la question est de savoir, évidemment, et c'est presque une question de principe, presque politique, est-ce qu'on considère que c'est un enrichissement, ou est-ce qu'on considère, comme vous l'avez dit pour Sartre, que c'est un vol ? Avant Sartre, après Sartre, beaucoup de phénoménologues ont considéré qu'autrui enrichit mon monde parce que c'est celui qui contribue à jeter un regard plus objectif ou plus complet sur les choses. Mon point de vue est complété, en quelque sorte subtilisé au sens où il est rendu plus subtil par d'autres points de vue qui font apparaître d'autres facettes de l'univers. ou bien ce sont les autres qui, par la concordance ou la convergence de leur point de vue, permettent de dégager une connaissance objective et admise par tous du même spectacle. Sartre a une thèse beaucoup plus radicale. Il refuse toujours d'analyser les choses sur le plan de la connaissance. Il demande l'expérience d'être à être qui constitue l'être pour autrui. Et il nous dit « je suis en fait volé ». Mon univers a subi une hémorragie. Il parle à un moment d'un trou de vidange qui fait qu'il s'écoule au profit de ce regard de l'autre. On peut dire que l'existentialisme chez Sartre, c'est un individualisme. Mmh. Il affirmera aussi que c'est un humanisme. Quelques années plus tard, dans l'après-guerre, quand il faut éviter que l'existentialisme soit pointé du doigt, à la fois par les catholiques et par les marxistes comme étant nihilistes et désespérant la jeunesse, si on veut reprendre la vieille accusation contre Socrate. Il y a d'abord, je crois qu'il faut l'assumer chez Sartre, ce point de vue individualiste et cette radicalité. Vous le disiez vous-même, nous avons tous fait cette expérience, mais généralement on l'oblitère, on ne veut pas la voir.
Qu'est-ce qu'il y a de pire pour Sartre avec cette irruption d'autrui dans mon monde? C'est de la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls, ou bien le fait de ne pas savoir ce que l'autre voit?
C'est d'abord de ne pas savoir ce que l'autre voit. En fait, autrui, c'est celui qui menace la loi phénoménologique fondamentale. En phénoménologie, il n'y a que des apparitions. Il n'y a que des choses qui se donnent à voir, et derrière, il n'y a rien. Sartre le répète souvent. Avec l'autre, il n'y a effectivement toujours que des apparitions. L'autre aussi regarde les phénomènes, mais la façon dont lui les voit, pour moi, est radicalement inconnue.
Et pourquoi est-ce
un problème? Elle est mystérieuse. Alors, c'est un problème parce que, avant de pouvoir considérer qu'éventuellement ça m'enrichit, parce qu'il va me dire ce qu'il a vu, ce qu'il a compris et que je vais intégrer ça à mon expérience, ça fait voler en éclats mon monopole, ça fait voler ma maîtrise. Et on peut éventuellement considérer, bien sûr, que toute cette analyse a un gigantesque impensé qui consiste à dire « je suis orgueilleux de jouir du regard unique que je peux porter sur le monde ».
D'être le centre du monde.
Mais pour Sartre, c'est ça la générosité qui est liée à la liberté. Je suis celui qui peut offrir le monde aux autres, puisque je suis celui qui le dévoile et l'organise autour de mon regard. Et il en fait d'ailleurs un élément essentiel des relations amoureuses. Celui qui veut se faire aimer va essayer de séduire l'autre en lui offrant ses connaissances, son érudition, son point de vue, son expérience sur le monde. Nous sommes jaloux du monopole, du regard que nous portons sur le monde pour Sartre.
Un peu comme un enfant, un très jeune enfant qui découvre qu'il doit composer avec d'autres enfants le jour où il va à l'école et qu'il
Alors
n'est pas seul aux yeux de sa mère.
On pourrait dire qu'effectivement, l'être le néant, c'est une sorte de philosophie d'un égocentrisme jamais dépassé. C'est ce qu'un certain nombre de philosophes ont reproché à Sartre.
Ou reprocher, en tout cas, on peut le constater. Il y a quelque chose de vrai.
On peut le constater. Je pense qu'il y a dans cette expérience quelque chose de vrai. La question est de savoir s'il y a des dépassements possibles. Mais ça, c'est déjà se placer sur le plan d'une aspiration éthique forcée. Pour Sartre, on n'est pas obligé d'avoir une solution positive à cette irruption d'autrui.
Il prend au sein de l'être et le néant et de cette troisième partie des cas particuliers. J'en ai lu un, on va en entendre un autre tout de suite, puisqu'il va passer par, après avoir analysé le problème qui est autrui, il va décrire l'écueil du solipsisme, c'est ainsi qu'il le nomme, et puis un chapitre plus technique consacré à Husserl, Hegel et Heidegger. On arrive à un chapitre sur le regard. Et à travers le regard, on peut comprendre l'importance, juste à partir de ce que vous venez de dire, hein, Vincent Corbitard, du regard d'autrui comme étant à la fois une menace et une irruption dans mon monde. C'est ce regard-là qui pèse sur moi en permanence, qui va donner lieu à certaines expériences qui me sont très familières. Pour le meilleur, c'est la fierté. Pour le pire, c'est la honte. Écoutez la description d'une expérience de honte.
Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement, je le réalise sur le mode du pour soi. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Il est certain que ma honte n'est pas réflexive, car la présence d'autrui à ma conscience, fût-ce à la manière d'un catalyseur, est incompatible avec l'attitude réflexive. Dans le champ de la réflexion, je ne peux jamais rencontrer que la conscience qui est mienne. Or, autrui est le médiateur entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui. Mais pourtant cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'au moelle. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit.
C'est par cette expérience très désagréable qu'est la honte, non seulement désagréable parce que c'est un sentiment négatif, mais parce qu'en plus je le subis ce sentiment, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout maître de ce qui m'arrive lorsque j'ai honte, que je prends conscience, non seulement que autrui existe, mais que je suis comme autrui me voit. Ce qu'il y a d'insupportable, c'est que le regard d'autrui, quand j'ai honte, me chosifie, me réifie, me fige en quelque chose qui est une chose à laquelle je ne m'identifie pas, Vincent Corbitard.
Oui, il y a en fait ici donc un pas supplémentaire et important qui est franchi par rapport au premier exemple, celui du jardin public. Cette fois-ci, l'autre me voit. L'exemple de Sartre, la situation, c'est « Je suis, par la jalousie, amené à regarder par un trou de serrure une scène qui se passe de l'autre côté de la porte. Jusque-là, tout va bien. Puis à un moment, j'entends des pas dans le couloir. De toute évidence, quelqu'un est là qui va me regarder. Et je suis subitement pétrifié de honte. Cette fois-ci, ça n'est pas mon univers qui m'est volé. C'est mon moi qui est radicalement transformé. Jusque-là, je n'étais pas attentif à moi-même. J'étais tout entier fixé sur cette scène que j'essayais de percevoir. Je m'oubliais. Ici, il y a une triple transformation qui s'opère. Je deviens un objet pour l'autre. Je suis cet être jaloux. Je m'échappe. Je ne sais pas quel jugement, quel regard l'autre porte sur ce voyeurisme auquel je m'adonne. Et en troisième lieu, j'ai mon fondement hors de moi, dit Sartre. Je suis aliéné, c'est l'autre qui va décider la qualification qu'il va me donner, du jugement qu'il va porter. Et donc, il y a ici un véritable drame qui se noue. Avec une tension interne, vous l'avez rappelé, cet être jaloux, c'est l'autre qui décide de me qualifier de cette manière-là, mais je ne peux pas récuser ce jugement. Je ne peux pas dire « ça n'est qu'une image, ça n'est qu'une impression ». Par ma honte, j'avoue, c'est le terme de Sartre, que je suis bien celui qui s'est penché sur la serrure pour aller voir ce qui se passait dans la pièce à côté. Et donc, nous ne sommes pas là sur un plan de connaissance, on pourrait toujours révoquer en doute ce jugement, dire « la catégorie n'a pas bien choisi, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de la curiosité, etc. » Non, dit Sartre, je reconnais par ma honte que je suis bien cet être qui était occupé à regarder un spectacle de manière indiscrète. Et Sartre a cette formule très frappante, « autrui détient un secret, le secret de ce que je suis ». Alors, ça n'est pas ce que je suis de toute éternité et l'intégralité de ce que je suis, c'est ce que je suis pour lui, à ses yeux, mais je le suis. Puisque précisément, ma honte est bien la preuve que je reconnais la véracité de la scène qu'il est occupé à regarder. S'il y avait un malentendu, si je n'étais pas là penché par voyeurisme, j'écarterais le malentendu, je n'aurais pas honte et tout de suite je donnerais une explication de ma présence dans les lieux. Donc il y a là quelque chose qui me travaille de manière extrêmement directe et de manière extrêmement dramatique. Je suis cet être, je ne peux pas nier sa proximité avec moi et en même temps il m'échappe tout entier puisque cette jalousie c'est l'autre qui me la colle sur le dos, c'est lui qui me fige ainsi, qui me réduit à ma jalousie. Et donc ça, c'est le départ de la pièce huis clos. L'enfer, c'est les autres, parce que les autres sont infernaux en tant que, précisément, ils nous enferment dans un certain nombre de définitions, de natures essentialisées, de jugements définitifs sur notre être.
Il faut entendre cette affirmation, l'enfer, c'est les autres, d'ailleurs, avec en investissant « enfer » du sens fort. C'est-à-dire c'est pas juste une manière de dire que la relation avec autrui est infernale, c'est que vraiment l'enfer, mais ce qui s'oppose au paradis, c'est pas un lieu où on irait fait de flammes et de diables, c'est les autres. C'est pour les aller autres, en enfer, en fait, être en enfer, c'est être avec les autres.
C'est être avec les autres en tant qu'ils opèrent une transformation radicale du champ de mon existence. Il y a quelque chose de fondamental pour Sartre, si la relation avec autrui doit avoir un sens, ça doit être un rapport d'être à être qui m'affecte. Sinon, ça ne sera jamais qu'un rapport de connaissance, on pourra dire « je sais qu'un tel est un autre être humain ». Après tout, qu'est-ce qui le distinguerait alors d'un animal ou d'une pierre, si c'est juste une affaire presque technique, presque scientifique, et là, telle ou telle caractéristique objective qui en font un humain. Ça n'est pas ça la question. Nous savons très bien que notre rapport avec les autres sont chargés de toute une série d'enjeux affectifs, existentiels, sexuels, moraux, etc., que nous n'entretenons ces enjeux qu'avec d'autres êtres humains. Et donc c'est de ça que Sartre veut rendre compte.
Continuons le pas que vous venez d'esquisser en dehors de l'être et le néant pour aller vers huis clos. Juste 2 minutes pour qu'on entende un extrait de cette pièce qui est formidable parce que justement, elle montre bien que l'enfer n'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Quand Garcin, Inès et Estelle se retrouvent dans l'au-delà, C'est censé être l'enfer. Il découvre un salon meublé de 3 canapés, un bronze posé sur la cheminée. Et finalement, leur enfer, ce sera de devoir rester dans cette pièce, tous les 3, pour toujours. Écoutez.
Il ne fera donc jamais nuit.
Jamais.
Tu me verras toujours.
Toujours.
Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Oh, vous n'êtes que 2. Je vous croyais beaucoup plus nombreuse. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru vous rappeler le soufre, le bûcher, le grill. Quelle plaisanterie! Pas besoin de grill, l'enfer c'est les autres.
J'ai déjà dit 100 fois que c'est une des choses qu'on peut dire des autres. Ça n'était pas un livre, une pièce limitative. Ça ne voulait pas dire l'enfer. Ce n'est qu'il n'y a pas d'autre enfer que les autres. Je voulais dire, les autres peuvent, lorsqu'ils sont hostiles, réunis en groupe qui condamne la personne, peuvent apparaître comme l'enfer. Il est certain que les autres peuvent faire mener une vie infernale aux gens. Et finalement, dans les rapports ordinaires, c'est un mélange très souvent d'amitié et d'enfer. Mais je ne veux pas dire qu'on ne puisse pas concevoir une façon de vivre et de communication dans laquelle les autres ne seraient pas l'enfer, les autres seraient autre chose. Je ne dis pas le paradis, mais en tout cas, ils seraient autre chose que l'enfer. Il y aurait une vraie solidarité.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la voix de Jean-Paul Sartre au micro de Jacques Chancel. C'était dans l'émission Radioscopie du 7 février 1973. À la suite de cet extrait de Huis clos, vous aurez peut-être reconnu la voix de Michel Aumont dans Garcin. C'était une adaptation avec les acteurs de la Comédie Française sur France Culture diffusée en 1990. Difficile, quand on a fait ce constat, Vincent de Corbitaire, que l'enfer, au sens propre, c'est les autres. Ensuite, d'être convaincant quand on veut renouer avec une position plus positive du rapport à autrui. Pourtant, c'est ce que Sartre essaye de faire.
Oui, mais il y a toute une dialectique des rapports à autrui. C'est une étape dans le raisonnement de Sartre, qui est destiné à bien montrer de manière dramatisante, je reprends l'exemple du voyou voyeuriste, du jaloux, pardon, voyeuriste, qui consiste à bien montrer de manière dramatisante l'impact qualitatif que provoque l'apparition d'autrui dans mon monde. Parce que ce moi jaloux, moi je le suis sans le connaître, c'est ce que je suis, mais je ne sais pas comment l'autre le juge, tandis que l'autre le connaît, mais lui ne l'est pas. C'est moi qui suis en danger dans son regard ou dans son jugement. L'inverse n'est pas vrai. Il y a une polarisation, il y a une dissymétrie. Sauf à entrer alors dans une tentative de riposte, et c'est là qu'il y a toute une dialectique. On n'est pas figé à cette étape. Mais à cette étape-ci, il y a quelque chose d'extrêmement violent qui, comme au jardin public, par l'apparition d'un autre spectateur du jardin, mais de manière ici beaucoup plus forte, redouble mon monde d'un monde dont Sartre dit lui-même, il est par-delà ce monde-ci, c'est celui de tous ces jugements que les autres portent sur moi par leur simple regard. Et c'est cet autre monde auquel j'appartiens mais qui m'échappe par principe, puisque c'est celui animé par les points de vue d'autrui, c'est cet autre monde que métaphoriquement on peut appeler l'enfer, puisqu'il me concerne directement, il m'objective, il me fige, il me donne une nature, une naissance éternelle, une fois pour toutes on a décrété que j'étais jaloux, ça me concerne au plus profond de mon être, et je ne peux rien faire, c'est l'autre qui décide de ce jugement, de ce verdict.
Ou du moins l'idée que je me fais de l'autre, l'idée que je me fais de ce monde.
Oui, mais pour Sartre, encore une fois, ça n'est pas une affaire de connaissance, ça n'est pas moi qui essaye de m'imaginer ou qui m'imagine que l'autre porte un jugement sur moi. Si j'ai honte, Ça veut dire je suis pétrifié, je rougis, je tremble, ma voix devient vacillante, je ne sais pas comment je vais garder une contenance un tant soit peu honorable face à celui qui m'a surpris en plein voyeurisme. Donc ça n'est pas une question d'image, Sartre y insiste à plusieurs reprises, ça n'est pas une image.
Il n'y a pas une réalité en dehors de la perception
que j'en ai. C'est mon être qui est en jeu. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus lourd qu'une simple image. Sartre dit c'est un fardeau. Il y a là quelque chose de très fort par rapport à tout le courant qu'on connaît depuis plusieurs dizaines d'années qu'on appelle les politiques de la reconnaissance, notamment la reconnaissance en dignité, en égalité de droits des différentes minorités. On pourrait se dire tout ça c'est une question de symbole, d'image. Non, à travers le texte de Sartre, on voit que ce qui est insupportable dans un regard discriminant, une symbolique inégalitaire, c'est que c'est l'être même de la minorité en question qui est attaqué. Ça n'est pas une affaire d'image. On se sent véritablement interpellé en tant que noir, en tant qu'homosexuel, en tant que femme. Ça n'est pas l'image qu'on essaye de défendre, c'est soi-même. D'où, et Sartre le suggère, la seule possibilité est de, non pas travailler une image contre une autre image, mais contester le principe même du regard, ou substituer non pas une image à une autre, mais un être à un autre. Ce qui veut dire, par exemple, renommer les choses. On ne dit plus aux États-Unis un nègre, on va dire un noir, on ne dira même plus un noir, on dira un afro-américain. Ça n'est pas une affaire de symbole, c'est une façon de dire un noir aux États-Unis, c'est un américain originaire d'Afrique. Et c'est tout à fait autre chose que les images qui pouvaient être véhiculées du temps où on parlait d'un nègre.
C'est le langage être. Fige autant que le regard, c'est ça?
Le langage fige autant que le regard, ou le langage confère un être ou reconnaît un être, mais c'est une différence qualitative, ça n'est pas un simple jeu de symboles pour Sartre. Je voudrais ajouter ceci, dans une phrase célèbre, Sartre nous dit « j'ai un dehors, j'ai une nature, un jugement me fige », et il ajoute « ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre ». C'est une référence explicite, et il la reprend quelques dizaines de pages plus loin, à la scène du Jardin d'Éden. Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus, lorsqu'après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu apparaît. Dieu, c'est évidemment l'autrui par excellence, qui vient leur montrer qu'ils ont commis ce péché. Il y a une différence qualitative, une transmutation qui s'opère. On passe de l'indifférence, de l'insouciance à l'inquiétude, on passe de l'innocence à la culpabilité. Autrui, c'est la source de la morale, ou en tout cas la source de toutes les morales aliénantes, de toutes celles qui vont profiter de ce poids que le jugement de l'autre a sur mon être et sur la manière dont je me ressens, tous ceux qui vont profiter de ce poids du jugement de l'autre pour essayer de m'enfermer dans une morale qui va me prescrire tel comportement ou m'en interdire d'autres. Je suis prêt à accepter des contraintes morales parce que je reconnais inévitablement autrui cette capacité de me transmuter en un objet, en une qualité qui m'est collée à mon identité de manière définitive. Et donc je rends des comptes inévitablement autrui, comme ce voyeur rendait compte à celui qui le surprend en pleine action. Et donc je suis prêt à entendre ceux qui, pour me laver de mes péchés, vont me proposer les voies à suivre et les interdits à respecter. Pour Sartre, toute morale, sauf exception, est par principe aliénante parce qu'elle se fonde sur ce rapport de regard, d'objectivation que constitue, entre autres choses, le pour autrui.
Comment, dans de telles conditions, peut émerger une relation telle qu'une relation amoureuse, par exemple?
Alors ça, c'est toute la difficulté pour beaucoup de commentateurs, c'est de lire dans le texte de L'être et le néant. Ce n'est pas toute l'œuvre de Sartre.
Non.
C'est la plus célèbre, sans doute, mais ce n'est pas tout Sartre. C'est de lire dans le texte de L'être et le néant des définitions tout à fait inhabituelles de l'amour, qui
c'est
n'en font
qu'on puisse
pas
dire, oui.
La découverte de l'être suprême qui devient la fin à laquelle je me voue ou l'objet d'admiration qui, en permanence, m'anime. L'idéal de l'amour, dit Sartre, son motif et sa fin, sa valeur propre, c'est agir sur la liberté d'autrui. Aimer, dit Sartre, c'est vouloir être aimé. Il commence par cette question toute simple. Souvent, il prend des questions qui appartiennent au champ psychologique en les détournant, en se demandant non pas pourquoi est-ce que ça devrait fonctionner ainsi, quelle est la nature humaine, nos passions, nos instincts, etc., qui font que nous fonctionnons ainsi, mais plutôt quel est le sens par rapport à l'être même de l'homme, des comportements que nous déployons. Pourquoi celui qui aime veut-il être aimé? Parce que, dit Sartre, il veut se mettre à l'abri dans la liberté de l'autre. Il veut en fait ployer ou plier cette liberté de manière à ce qu'au lieu d'être potentiellement un regard menaçant, objectivement hostile, ça devienne un regard généreux, bienveillant, qui va, on y reviendra peut-être finalement, me justifier d'exister, être celui qui va donner une raison d'être à ma présence. Mais ça veut donc dire que l'amour, Sartre le dit explicitement, est à l'origine potentiellement d'un conflit. C'est une tentative de employer la liberté de l'autre pour donner un sens à ma propre liberté, à ma propre existence. Ça n'est donc pas l'autre, la fin à laquelle je sacrifie toute mon énergie. C'est un moyen par lequel je tente de régler un problème que j'ai avec moi-même, celui de l'injustifiabilité de mon être et de cette inquiétude permanente des jugements qui sont portés sur moi. L'amour, c'est la relation dans laquelle nous tentons de nous mettre à l'abri, sous un regard qui, lui, sera intégralement et idéalement inconditionnellement positif.
Ce qui est cohérent avec ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que de toute façon, autrui n'existe que dans... Alors, pas l'image, mais la manière dont je le perçois. Si j'existe pour autrui, autrui n'est jamais que ce qu'il est pour moi. Et donc, aimer quelqu'un, c'est toujours y trouver un intérêt. Enfin, un intérêt plus ou moins consciemment, hein, mais il dit bien que c'est presque toujours réduire l'autre à un instrument, de toute façon.
Alors, un instrument, pas forcément. Ça, c'est une modalité très particulière qui est la modalité sadique.
Où là, véritablement, qu'il évoque également, ouais.
Je vais réduire l'autre à un simple corps. Ce dont il s'agit dans la relation amoureuse, qui en fait dans l'être et le néant fait l'objet d'un très long développement et dont la quasi-intégralité est extrêmement positive.
Qui est très beau, c'est vrai.
Qui est très beau. Ce qui fait l'objet premier, l'objectif de la relation amoureuse, c'est encore une fois essayer de posséder l'autre pour que l'autre soit celui qui donne un sens à mon existence. Ça veut dire non pas vouloir l'esclavagiser. Il n'est pas du tout question de vouloir posséder l'autre par contrainte. Certains insistent bien, je ne veux pas que l'autre m'aime comme Tristan et Iseult sous l'effet d'un filtre magique, ou simplement par soumission à une force physique, ou simplement parce qu'il serait fidèle à un engagement pris. Il n'y a d'amour que dans une liberté reconduite. Sartre aurait applaudi à la chanson de Brassens, « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main ». C'est tous les jours que nous devons reconduire notre promesse de mariage et pas rester amoureux par contrainte juridique, par engagement pris. Ce dont il s'agit, c'est vouloir captiver la liberté de l'autre, devenir, il le dit lui-même très simplement, tout au monde pour celui que nous aimons et dont nous voulons être aimés, devenir la préoccupation, la finalité de l'autre, et donc effectivement agir sur cette liberté. L'idéal, c'est de sentir que la liberté de l'autre se laisse abîmer, mais au sens positif du terme, l'autre s'abandonne à son amour, l'autre s'abandonne à son adoration. Sartre parle un moment d'engluement de cette liberté. Je voudrais sentir que l'autre est fasciné tout entier par mon être. Et d'ailleurs, comme je sais que l'entreprise est difficile, je vais tenter de le séduire. Mmh. Et Sartre a une très belle définition de la séduction un peu technique, donc je la paraphrase, disant « Séduire, c'est courir le risque de mon être objet pour l'autre, c'est me soumettre au regard de l'autre, mais pour essayer d'enchanter ce regard et que ce regard que l'autre porte sur moi soit un regard qui est captivé, qui est admiratif. Mais c'est courir le risque qu'en réalité ce regard soit un regard sévère ou un regard indifférent ou un regard qui va me juger. C'est toujours une aventure, par définition tout à fait incertaine, mais que nous poursuivons pour la raison la plus métaphysique, en quelque sorte, qui soit, et que Sartre explicite dans un passage extrêmement clair, je me permets ici de le citer, « Au lieu de nous sentir de trop, dans l'amour, nous sentons que cette existence qui est la nôtre est reprise et voulue dans ses moindres détails par une liberté absolue. L'autre veut que je sois ce que je suis, s'il m'aime. Et moi, l'aimer, c'est vouloir être aimé de cette manière inconditionnelle, tout comme je peux jouir de l'aimer de manière inconditionnelle et de lui accorder en quelque sorte un surcroît d'être, un surcroît de dignité, de le sortir du caractère accidentel de son existence.
Donc aimer, c'est vouloir être aimé, et c'est vouloir être aimé tel que je suis et non pas tel que je redoute qu'autrui me voie.
Voilà, effectivement. Effectivement, et donc c'est une entreprise intégralement positive, mais, dit Sartre, qui engendre sa dimension de conflit, puisqu'il y a bien cette forme de manipulation, de ploiement de la liberté de l'autre à mon profit, alors idéalement dans la réciprocité. Et si c'est dans la réciprocité, ça peut se passer bien une vie entière. Mais précisément, ça ne se passe bien que s'il y a réciprocité, que si l'autre dont je veux capter la liberté se laisse capter avec plaisir et voit que moi aussi j'accepte de me laisser capter. Donc on voit bien en quoi il y a potentiellement un conflit, et dit Sartre, en définitive un échec, parce qu'en tout cas je ne suis jamais à l'abri. Je ne peux jamais être sûr que demain, l'autre m'aimera encore. Alors, quand il dit échec, je crois qu'il pousse le bouchon, comme souvent. Disons, risque permanent que ça débouche sur un échec. Il n'est pas dit que ce sera toujours un échec. L'amour peut être éternel, mais c'est un risque particulièrement aigu et donc rien ne garantit la reconduction.
C'est aussi une formule qui résume bien ce que vous venez de dire et la conception de Sartre sur l'amour. Chacun veut que l'autre l'aime, sans se rendre compte qu'aimer, c'est vouloir être aimé, et qu'ainsi, en voulant que l'autre l'aime, il veut seulement que l'autre veuille qu'il l'aime.
Oui,
alors, plusieurs fois, mais c'est
exactement ça. Alors avec le ça. Seulement, il y a quelque chose d'un petit peu cinglant et d'assez désespérant, et Dieu sait si
et vous insistez sur la dimension positive,
Lacan, etc. Oui. La plupart des commentateurs ont évidemment insisté sur ce qu'il y a d'horriblement désenchanteur dans cette théorie de l'amour. Je maintiens qu'on peut lire la quasi-intégralité du texte sans tomber sur les quelques phrases qui sont des verdicts, effectivement extrêmement démystificateurs. Je ne veux pas dire que Sartre s'est trompé ou s'est trahi avec cette dimension plus noire, mais il ne faut pas tout suspendre.
Mais vous citiez cette autre négatif. Très belle phrase qui est beaucoup plus positive. C'est là le fond de la joie d'amour lorsqu'elle existe, voilà. Nous sentir justifiés d'exister.
Voilà, il est bien question tout de même d'une joie d'amour. Et Sartre a eu lui-même des relations amoureuses multiples et fortes. Qu'elles soient multiples montre bien qu'il y a toujours ce risque de conflit et d'échec et que ça ne se termine pas forcément bien. Mais qu'elles soient multiples montre bien aussi tout le prix qu'il pouvait accorder à titre personnel à cette relation dont il dit lui-même qu'elle est fondamentale et spécifiquement humaine. Donc il n'y a pas du tout une sorte de dédain de moraliste revenu de tout.
Bah lui, en plus, distinguait l'amour nécessaire avec Simone de Beauvoir des amours dites contingentes.
Oui, qui n'était pas moins passionnel pour autant.
C'est dire combien il y a de catégories dans l'amour. À la question de savoir si on peut avoir de l'amour pour soi-même, voici la réponse que Sartre fait à 70 ans.
Est-ce qu'on s'aime ? Est-ce que c'est pas un autre genre de sentiment qu'on a vieilli de soi-même ? Aimer quelqu'un, c'est quelque chose de relativement simple et facile à comprendre, parce que la personne n'est pas toujours là. Parce qu'elle est, elle n'est pas vous. Ces deux raisons suffisent à indiquer que le sentiment que vous avez pour vous, qui êtes toujours là, et qui êtes vous-même par conséquent, qui est à la fois celui qui aime et celui qui est aimé, est un sentiment qui peut-être bien n'existe pas. Est-ce que vraiment le rapport juste de soi avec soi doit être un rapport d'amour? Je pense que non.
En toute logique sartrienne, Vincent de Corbitaire, pour arriver à éprouver de l'amour pour soi, il faudrait éprouver d'abord un dédoublement à soi.
Tout à fait.
Ce que Sartre ne pense pas.
Non, il y a un cogito pré-réflexif, je suis conscient de moi-même sans avoir besoin d'un regard porté sur moi-même. Il y a une faille interne, il y a cette distance qui fait que je peux me regarder, me juger, etc. Mais il n'y a pas le dédoublement qui permettrait un amour. Il y aurait évidemment une théorie psychanalytique ou autre à avoir sur certaines formes de narcissisme ou de délire psychotique, mais ça n'est certainement pas à associer à la logique de l'amour telle que nous venons de le voir, qui est forcément une logique impliquant un autrui.
Un peu plus loin après, toujours dans son examen des relations concrètes avec autrui, au sein de ce même chapitre sur le pour autrui, dans la première attitude envers autrui, il y avait donc l'amour, on en a parlé, suivi du langage et du masochisme, on en a dit deux mots. La deuxième attitude envers autrui, c'est, je cite, l'indifférence, le désir, la haine, le sadisme. Bon, vous insistez sur la dimension positive de ces pages, Vincent de Corbitaire, donc je vous propose qu'entre indifférence, désir, haine et sadisme, on retienne désir. De quoi le désir est-il le nom dès lors que l'amour né? Alors là, moi-même, j'emploie des termes restrictifs, l'utilisation d'une certaine liberté qu'autrui m'apporte pour moi-même, comment peut-il y avoir du désir? D'où naît le désir dans cette relation si particulière?
Alors c'est un des textes les plus énigmatiques de Sartre, parce que c'est un de ceux où il va le plus loin dans ce qui est la spécificité de l'être le néant. C'est de reprendre toute une série de thèmes classiques de la biologie, de la physiologie, de la psychologie, etc., pour nier toutes les explications qu'on pourrait dire naturalistes, par le corps, par le psychisme, par un certain nombre de lois organique ou naturel, et essayer de reprendre les mêmes questions sur un plan qu'il appelle techniquement ontologique, ce qu'il en est de l'être même, de la conscience ou de l'homme. Et il a cette thèse extrêmement surprenante consistant à dire « il n'y a pas du désir ou de la sexualité parce que nous avons des organes sexuels ». C'est l'inverse, dit-il. C'est parce que nous sommes des êtres fondamentalement sexués en tant qu'êtres pour autrui, qu'il y a un certain nombre d'organes que nous utilisons à des fins sexuelles. Mais nous sommes, dit-il, des êtres sexués indépendamment de l'existence de ces organes. La preuve, ça convaincra ou pas, mais la double preuve qu'il en donne, c'est que les enfants ont déjà une forme de sexualité, d'attirance, de pratique, de désir, d'affectivité incontestablement, avant d'avoir une quelconque maturation sexuelle de leurs organes reproducteurs, et que les vieillards, bien longtemps après que tout cela se soit éteint, continuent à avoir du désir, des envies de séduction, etc., etc. Donc Sartre découple la question de la sexualité de la question des organes sexuels en disant il se trouve qu'il y a certains organes qui se prêtent à une utilisation sexuelle, mais c'est parfaitement contingent. Dans les carnets de la drôle de guerre qui ont servi de brouillon à l'être néant pendant qu'il était au front en 39-40, il avait développé une longue théorie de la pré-sexualité, antérieure là aussi par définition à l'apparition d'organes sexuels, et déjà axée exclusivement sur l'être de la conscience. Donc ça, c'est une première thèse forte. Ça veut dire du coup qu'il faut donner au désir et à la sexualité une signification qui est spécifique au rapport à l'autre. Et on est toujours face à la même difficulté. Je suis un être en danger dans le regard d'autrui, un être qui ressent sa contingence, son injustifiabilité. En quoi est-ce que le désir peut suturer, en quelque sorte répondre à ses failles ? La définition que Sartre donne du désir, un peu technique mais n'est pas longue, je me permets de la citer, « ma tentative originelle pour me saisir de la subjectivité libre de l'autre à travers mon objectivité. Je vais utiliser mon corps pour essayer d'ensorceler non pas seulement le corps mais aussi la conscience de l'autre. » Ça signifie que désirer, c'est comme dans l'amour, c'est en définitive vouloir aussi être désiré. Mais il y a ici une boucle qui ne se boucle pas tout de suite. Il faut être très attentif au décalage entre ce que le texte a l'air d'annoncer et ce qu'il développe. Il a l'air d'annoncer une fois de plus, il y a une volonté de possession, dit-il. Le désir, c'est vouloir posséder un autre. Et donc on a l'impression, surtout vu la date, 1943, qu'on va avoir affaire à un texte très hétéronormé. D'abord, c'est un point de vue de mâle par rapport à la part féminine, et puis un texte peut-être très machiste, très viriliste. On a souvent reproché à ça à Sartre, son pour-soi, sa définition de la conscience, c'est un être actif, dominateur, qui maîtrise le monde, c'est typiquement le parangon du mâle, et l'univers et les autres, ce sont potentiellement plutôt des femelles qui seront soumises au primat de sa liberté. Quand Sartre dit « possession d'un autre », il ne dit pas que l'autre est forcément d'un autre sexe et que ça n'est pas la personne féminine possédée par un mâle. Ça peut être parfaitement être une relation homosexuelle entre hommes ou entre femmes. Parce que cette possession, il le dit très explicitement, ne passe pas d'abord par le coït ou par la pénétration. La grande thématique de Sartre sur la possession et sur le désir, c'est la caresse, ce qui est tout à fait autre chose. Et quand il développe toute la thématique de la caresse, c'est dans un sens qui n'est absolument pas viriliste ou machiste. Sans pour autant reléguer la caresse, je dirais, du côté des à-côtés, les simples préliminaires. Il la met au cœur de toute son analyse. Et ça n'est pas non plus pour donner à la sexualité une importance en quelque sorte secondaire. Il a cette phrase étonnante, « Pouvons-nous admettre que cette immense affaire qu'est la vie sexuelle vienne de surcroît à la condition humaine ?» Non, c'est au cœur de notre relation avec autrui. Parce que qu'est-ce que la caresse ? C'est, dit-il, le moment où mon désir devient consentement au désir. Je veux me laisser d'abord prendre par ma propre chair. Je vais consentir à ma propre passivité. Je vais consentir, par la caresse par laquelle j'éveille le corps de l'autre, à sentir mon corps aussi s'éveiller et être pris, transi tout entier par le désir. Et il écrit notamment « Le désir me compromet. Et je veux un consentement passif à mon désir. Je veux... pour une fois, chez Sartre, jouir de ma facticité, de mon être charnel dans sa contingence de fait. Je vais révéler mon propre corps en caressant celui de l'autre, c'est le mien aussi, que je vais animer, mais pour ne faire qu'un avec lui. Donc, non, pas du tout dans une logique activiste ou de possession du corps de l'autre. Et par rapport à l'autre, Sartre multiplie des caresses qui, là aussi, sont aux antipodes de ce qui pourrait être une brutalité machiste. Il nous dit « la caresse, c'est l'acte par lequel j'essaye d'incarner autrui. C'est l'acte par lequel je tente que autrui, comme conscience, comme liberté, réintègre son corps ou vive pleinement son corps et s'abandonne en tant que corps à la caresse que je lui donne et dont il ou elle peut jouir. Et donc, c'est une façon, dit-il, non pas de posséder au sens d'empoigner, de prendre, de façonner, mais plutôt de posséder au sens d'amener à la vie. C'est moi qui vais donner à l'autre cette incarnation qui, en règle générale, nous échappe parce que notre corps est plutôt ce que nous employons pour obtenir des résultats. Là, ça a amené l'autre à rejoindre en quelque sorte son corps et à s'épanouir dans ses sensations. C'est, dit-il, faire naître par le plaisir le corps d'autrui à lui-même. Et note lui-même que la caresse est du coup forcément langoureuse. C'est lent, c'est doux, c'est quelque chose qui est aux antipodes d'une brutalité ou d'une possession. Il le dit bien, il ne s'agit pas de prendre. C'est posséder, mais sans prendre. C'est faire naître la chair à elle-même. Double incarnation réciproque. Donc on n'est pas du tout dans le schéma qu'un certain nombre de lectures féministes, notamment, ont voulu donner de la sexualité selon Sartre. C'est un langage envoûtant, dit-il.
Suite à ces préliminaires, Vincent de Cormutter, je vous propose qu'on entende la page de Sartre sur la caresse, qui est une des plus belles pages de L'être et le néant.
Je me fais chair pour fasciner autrui par ma nudité, et pour provoquer en lui le désir de ma chair, justement parce que ce désir ne sera rien d'autre en l'autre qu'une incarnation semblable à la mienne. Ainsi le désir est-il une invite au désir. C'est ma chair seule qui sait trouver le chemin de la chair d'autrui, et je porte ma chair contre sa chair pour l'éveiller au sens de la chair. Dans la caresse, en effet, lorsque je glisse lentement ma main inerte contre le flanc de l'autre, je lui fais tâter ma chair et c'est ce qu'il ne peut faire lui-même qu'en se rendant inerte. Le frisson de plaisir qui le parcourt alors est précisément l'éveil de sa conscience de chair. Étendre ma main, l'écarter ou la serrer, c'est redevenir corps en acte, mais du même coup c'est faire s'évanouir ma main comme chair. La laisser couler insensiblement le long de son corps, la réduire à un doux frôlement presque dénué de sens, à une pure existence, à une pure matière un peu soyeuse, un peu satinée, un peu rêche, c'est renoncer pour soi-même à être celui qui établit les repères et déploie les distances, c'est se faire muqueuse pure. Et ce n'est pas par hasard que le désir, tout en visant le corps entier, l'atteint surtout à travers les masses de chair les moins différenciées, les plus grossièrement innervées, les moins capables de mouvements spontanés, à travers les seins, les fesses, les cuisses, le ventre. Elles sont comme l'image de la facticité pure. C'est pour cela aussi que la véritable caresse, c'est le contact des deux corps dans leurs parties les plus charnelles, le contact des ventres et des poitrines. La main qui caresse est malgré tout déliée, trop proche d'un outil perfectionné. Mais l'épanouissement des chairs l'une contre l'autre et l'une par l'autre est le but véritable du désir.
Quelle page, Vincent de Cormutter, interprété ici par le comédien Vincent Schmitt, qui a rendu le désir qui s'éveille au contact.
Elle est extrêmement frappante et Sartre en avait oublié lui-même l'existence.
C'est intéressant.
À un certain moment, dans son grand âge, on la lui a relue et elle était frappée par ce qu'il était parvenu à écrire. On pourrait ajouter que il y a une suite quand même. Sartre n'ignore pas que le plus souvent l'acte sexuel, sous sa forme hétérosexuelle ou non d'ailleurs, selon les cas, se termine par la pénétration ou par la coït. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression que la qualité du désir et de la relation se dégrade. C'est le moment où, pour des raisons presque de l'ordre de la contingence biologique, on essaye de prendre et de s'approprier pour arriver à la jouissance. Et là, les remarques que fait Sartre montrent qu'on change de registre et qu'en quelque sorte, on perd de qualité parce que celui qui pénètre devient actif. Il ne fait plus qu'un. Il ne fait plus un avec son corps. Son corps devient un instrument par lequel il ploie l'autre corps aussi comme un instrument. Il est dans une recherche un peu volontariste de jouissance. Et celui ou celle qui est pénétré, qui fait l'objet de la possession, devient passif et peut être dissocié entre son corps qui s'abandonne, mais éventuellement par force, et son esprit, sa conscience, qui peut ne pas être totalement à ce qui se passe. Je rappelle la fameuse phrase de Brassens, 95 fois sur 100, etc., etc.
La femme s'emmerde en baisant.
Voilà. Ou l'homme.
Brassens dit la femme.
Parce qu'il y a cette dissociation potentielle quand on en arrive à une activité sexuelle. Et donc, au moment où Sartre décrit l'acte sexuel le plus ordinaire, la pénétration et le rapport mâle-femelle traditionnel, il est beaucoup plus démystificateur et, en quelque sorte, désenchanteur que quand il parle de la caresse. On peut dire aussi que dans cette analyse-là, évidemment, il utilise, sans bien s'en rendre compte, le point de vue de l'homme par rapport à la femme. Ce n'est pas dit, mais c'est clair. Et il aurait peut-être manqué là des compléments un peu plus contemporains, un peu moins, je dirais, traditionnalistes. Mais en tout cas, c'est frappant que c'est la caresse qui est pour lui le cœur de l'acte d'amour.
Vous avez cité Brassens deux fois aujourd'hui, Vincent Corbitter. Ce n'est pas lui qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission, mais c'est une autre suggestion que vous nous avez glissée à l'oreille. Écoutons, vous nous direz pourquoi.
Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau.
Vincent Corbitter.
Un regard suffit pour planter mieux qu'un couteau. C'est du Sartre. On peut être existentialiste sans le savoir, et c'est normal, puisque c'est bien l'homme ordinaire que Sartre essaie de décrire.
Viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis.
Un grand merci Vincent Corbitter d'être venu nous parler de Sartre, d'autrui, d'amour, de caresse et de Johnny et de Brassens aujourd'hui.
Avec plaisir.
Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Sartre avant la phénoménologie, Sartre face à la phénoménologie aux éditions Ousia. On mettra les références en ligne sur le site du chemin, des chemins de la philosophie, oui. Et je confondais avec le journal de la philosophie car il est l'heure sur France Culture de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal quotidien de la philosophie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme tous les jours vous partez d'une actualité pour nous parler de philosophie, jusqu'à présent vous nous avez parlé d'anniversaire à chaque fois, hein, David Bowie, Benjamin Constant, encore un anniversaire aujourd'hui?
Encore un Adèle, encore un Simone de Beauvoir dont on fêtait les 110 ans de la naissance ce mardi 9 janvier, un anniversaire qui tombe à pic. Alors pas comme un clin d'œil seulement parce qu'on fait cette semaine des chemins consacrés entièrement à l'être et le néant de Sartre, mais parce que celle à qui l'on doit le deuxième sexe, paru je le rappelle en 1949, reste une figure incontournable du féminisme, de ses questionnements, de ses vagues successives, de ses tensions ou contradictions, en tout cas encore et toujours, en témoigne ces derniers mois de sa forte actualité et bien sûr de sa thèse cruciale.
Expliquer, on ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Justement, en termes d'actualité et de tension, l'anniversaire de Simone de Beauvoir s'est posé là, car ce jour-là, le mardi 9 janvier, ce n'était pas seulement remis, je le rappelle quand même aussi, le prix Simone de Beauvoir à la journaliste et écrivaine turque Asli Erdogan, mais, et c'était peut-être vraiment un clin d'œil pour le coup, est sorti dans Le Monde une tribune signée par 100 femmes intitulée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Tribune qui s'élève face à celles et ceux d'ailleurs qui s'étaient lancés dans l'affaire Weinstein et y voyait une échappée vers plus d'égalité homme-femme. Alors, cette tribune ne vise pas Simone de Beauvoir, mais elle nous montre qu'en termes de féminisme, la philosophe a en tout cas visé juste, en dénonçant ce mythe d'éternel féminin et en pointant l'absence de nature féminine. Oui, ce qu'on voit bien à travers ces oppositions, c'est bien cette absence de consensus sur ce qu'est une femme, cette absence de consensus culturel, dès qu'il n'y a plus de nature, plus de données qui s'imposent, déterminent et entravent. Et tant mieux d'ailleurs, car une absence de consensus, c'est à la fois une ouverture des possibles et un passage obligé vers tout un ensemble de conflits, l'occasion de s'interroger sur l'essence de la femme, d'y mettre fin ou de la réinventer. Alors, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que devenir femme? Qui ou que devient-on quand on devient femme? Faut-il d'ailleurs parler de femme, d'une femme ou des femmes ou encore de la femme? Un homme peut-il devenir une femme? Une femme est-elle forcément féminine? Et est-elle forcément féministe? Voilà tous les fils que l'on peut tirer à partir de cette seule affirmation de Simone de Beauvoir, de cette thèse cruciale, devenue parfois slogan politique et même parfois accroche publicitaire, mais à qui l'on doit de reposer derrière sa simplicité du débat. Car oui, c'est à partir de cette seule thèse que l'on peut questionner ce qui a lieu depuis quelques mois et a pris un autre tournant ces jours-ci. Derrière les conflits, les contextes, encore faut-il pouvoir se poser, poser ses questions et choisir sa manière de devenir femme.
Dès le début, j'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante. C'est-à-dire d'une part gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant des examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tienne à cœur, et ça c'était de devenir écrivain. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune, et c'était bien plus important pour moi que toute espèce d'autre option. Et c'est ainsi que j'ai été fidèle à cette option, parce que par exemple, lorsque j'ai été nommée professeur à Marseille, et que je tenais beaucoup à mes amitiés à Paris, et particulièrement à Sartre, dont je venais de faire la connaissance, il m'a proposé, voyant que quand même la séparation m'angoissait un peu, il m'a proposé que nous nous marions, et j'ai absolument, décidément, tout de suite refusé. Parce que je pensais qu'il fallait à une femme une certaine solitude, et une liberté qui ne peut venir que de cette certaine solitude, et que même si on s'entend très très bien avec quelqu'un, il ne faut pas être entièrement dévoré par une vie commune.
Peut-on choisir de devenir femme? Comment choisir de devenir femme? Une certaine femme? Mieux, devenir femme implique-t-il d'abord de faire un choix, de pouvoir en faire un? Eh bien, en ce qui concerne cette tribune du Monde, il faudrait revenir, cela a déjà été fait, sur tous ces arguments qui me semblent réduire le mouvement né de l'affaire Weinstein à une guerre des sexes, que personne ne veut, à une haine des hommes dont il n'est pas question, et donc à une certaine aussi idée de la femme, au choix, dans cet article, dans cette tribune, victime, quand elle est d'accord avec le mouvement Balance ton porc et MeToo, objet sexuel, quand elle y voit à l'inverse une entrave, parfois aussi à la tête d'une équipe professionnelle. Mais justement, là est bien le problème, au choix, le choix. Comme l'indique Simone de Beauvoir dans cette archive, elle a bien choisi de ne pas se marier avec Jean-Paul Sartre. Mais qui peut choisir? Tout le monde veut bien être à la fois chef la journée, objet sexuel la nuit, le veut bien, mais qui peut vraiment, qui a vraiment la possibilité, j'entends, de jouer tous ces rôles? L'enjeu est qu'on puisse le dire, le faire, le choisir. Alors pour ma part, vraiment, je vois cette tribune comme un moment nécessaire qui permet d'affiner et de renforcer le mouvement qui fait suite à l'affaire Weinstein. C'est une contradiction nécessaire et dialectique pour qu'il se précise et se poursuive, et pas n'importe comment, mais n'importe où et pour toutes et tous. Et justement, dans le cahier de Lerne consacré à Simone de Beauvoir, qui reparaît à l'occasion de ce 110e anniversaire de sa naissance, eh bien on peut découvrir ce texte qui résonne parfaitement avec cette tribune et y répond, je cite, « Elle est en train de devenir indépendante et responsable, actrice de la construction du monde, mais cette métamorphose fait encore peur, mille prophètes grommellent qu'elle va ruiner l'amour, et avec lui toute poésie, toute illusion. N'est-il pas possible de concevoir un nouveau genre d'amour dans lequel les deux partenaires seraient égaux ?»
Merci Géraldine de nous parler de Simone de Beauvoir et de nous donner votre avis si précieux. Alors, du coup, vous nous invitez à lire de Simone de Beauvoir, enfin sur Simone de Beauvoir,
Ce cahier de Lerne, où on retrouve donc des textes préliminaires au deuxième sexe, et puis évidemment tout un ensemble d'articles, d'appareils critiques sur Simone de Beauvoir, notamment sur le féminisme, mais pas que sur le féminisme, il faut le dire.
Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui a préparé cette semaine, Olivier Bétard qui la réalise, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. C'est la fin de notre série sur l'être et le néant. Vous pouvez Réécoutez intégralement ces émissions vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie. Réécoutez en ligne ou bien téléchargez, podcastez pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Mais on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi, actualité philosophique éditoriale. Je recevrai Arnaud François qui propose une excellente philosophie d'Émile Zola, Faire de la vie. Un texte publié aux éditions Hermann dont il sera question demain. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve donc demain à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.